I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le saviez-vous? Tout ce qui est là n'est pas forcément là. En conséquence, et en forme de démonstration, le poste général est heureux et fier de vous présenter le plat du dimanche. Deux stars internationales, Wales Gaillère et Vincent Malone, de la Académie française.
Mais bonjour Well, comment vas-tu?
Coucou, comment ça va?
Bah ça va, ça Covid, doucement, doucement. Mais laisse passer madame, mais avec qui es-tu?
Avec Julie Lou.
Bonjour Julie Lou.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci de me recevoir.
Mais t'en prie, on va se tutoyer, ça va quand même être plus simple. Si tu veux bien rentrer.
Ouais.
Voilà, tu rentres, tu fermes la porte.
Ouais, c'est sympa chez toi.
Tu verras, il y a même des moutons sous les meubles si tu cherches bien. Ah oui, allusion.
Si je les appelle, tu crois qu'ils vont venir?
Non.
Non,
celle-là, elle bouge pas. Attention, attention. Là, tu vas marcher sur quelque chose. Oui, ça, c'est bon.
C'est le plat. C'est le plat. Le plat. Tu dis. Le plat. Tu dimanche.
Et voilà, nous sommes dans la cuisine avec, alors là, attention, tenez-vous bien tous. Julie Lou, qui est
Bergère.
Voilà.
Ça, ouais, c'est. Blague. Voilà, c'est ça.
Rien, quoi?
Si tu peux juste éviter les blagues des bergères et des buissons, ça m'arrange. J'en ai marre.
Des buissons.
Ouais, on associe la bergère au buisson.
Attends, je comprends même pas l'idée, quoi.
Vas-y. Je sais pas. Apparemment, les bergères, ça se retourne vite fait dans un buisson. Voilà.
Ah.
Non, il fait pas de blagues comme ça.
Non. Bah, alors. Donc, Julie Lou, tu es bergère. Et tu es bergère où?
À La Courneuve, dans le 93.
Donc tu es la seule bergère du département ou il y en a plein?
Non, parce qu'en fait on est dans une association et il y a des gens qui se forment pour être berger aussi dans l'association, donc je ne suis pas toute seule.
Non mais excuse-moi Julie Lou, parce que moi je suis parisien tout ça, mais ça sort d'où cette histoire?
Bon, cette histoire c'est qu'il y avait des moutons, il y a des prairies dans les villes et que les prairies elles sont tristes parce que si elles n'ont pas de moutons dessus, elles s'appellent des vieilles pelouses. Et que du coup, si on veut que l'écosystème marche bien, eh ben, il faut des ruminants sur des pelouses pour qu'elles deviennent des prairies et qu'elles soient vivantes et avec de la biodiversité, tout ça. Donc en fait, on s'est dit, bah, ces pauvres pelouses urbaines ont besoin de moutons pour se transformer en prairies.
Donc c'est l'œuf ou la poule, c'est d'abord le berger et après le mouton. C'est pas le mouton qui était là et que tu as pris.
Ah, tu sais, c'est le problème en fait de l'agriculture, c'est qu'il n'y a jamais d'œuf ou de poule, c'est les deux en même temps.
Ok.
Ouais.
Oh là, mais attends, je suis complètement dépassé par cet épisode. On démarre directement avec des œufs et des poules en même temps.
En même temps, c'est le concept.
Et là, je voudrais comprendre, ça fait combien de temps que ça existe, cette association berger?
Eh ben là, on va arriver sur nos 10 ans.
10 ans
mmh.
Et est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce que j'aperçois de temps en temps quand je fonce sur mon scooter, car je fonce sur mon scooter, Julie Lou, il faut le savoir, et que je vois marquer des endroits genre éco-broutage, tu sais, les trucs, tu sais, ils passent plus les tondeuses, mais mettent des moutons.
Ça me fait mal aux oreilles quand tu dis ça. J'aime pas l'éco-pâturage.
Ah, c'est éco-pâturage.
Ouais, éco-broutage, ouais, c'est bien éco-broutage.
Et pourquoi t'aimes pas ça?
Ben, parce que le pâturage, tout simple, le pastoralisme, c'est des activités qui viennent des fonds des âges, du temps où les hommes étaient nomades et se trimballaient avec des animaux qui avaient besoin de se déplacer pour manger. Et en fait, tout le monde se suivait, quoi, et c'était sympa. Et donc, rajouter éco devant, c'est un peu ridicule.
Ah, c'est ça qui te gêne, en fait, c'est le mot éco.
Oui.
C'est les mots du 21e siècle.
Et puis, ça cache aussi, les pratiques cachent, en fait, une envie de zoo, en fait. C'est pas, les animaux ne sont pas pris pour ce qu'ils sont. Ils sont pris pour des tondeuses ou des... enfin, des décors, ils sont là pour faire genre que la ville est écologique. Sauf que les animaux, ils souffrent dans les parcs, parce que comme je disais, les animaux, ils ont envie de... comme on dit, le mouton avance en mangeant, et il en a besoin. Il en a besoin physiologiquement de changer d'herbe à chaque fois.
Oui.
Et l'éco-pâturage, c'est enfermer des animaux quelques mois ou plusieurs temps, enfin, dans
tout
un an.
D'où l'idée du zoo.
Voilà, et juste pour que, en fait, les gens les voient. Voilà. Alors qu'en fait, un bon troupeau, c'est un troupeau dont on sait qu'il est là, mais on ne le voit pas forcément. Il ne fait que de passer.
Excuse-moi, mais là, du coup, je profite de ta présence, je te demande pardon chez moi. Là, j'ai des moutons, j'en ai 5, mais ils sont sur 2,5 hectares, je crois, comme ça. Et ils sont là, et c'est vrai que je vais les voir toutes les semaines, mais ils ne se déplacent pas plus que ça, quoi. Ils ont un petit bout de bois, ils ont leur prairie, leur machin, truc comme ça. Donc ça, c'est pas bien.
Non.
Explique-moi pourquoi, parce que ça me rentre dans la tête vraiment.
Eh ben, si tu es là toutes les semaines et que tu les changes régulièrement de parc...
Il faut qu'ils changent de parc.
Voilà, et que tu divises tes 2 hectares en plusieurs parcelles et que tu les fais tourner, comme on dit, tu gères de la rotation. Et pour qu'ils soient bien, il faut une rotation rapide. On appelle ça des rotations dynamiques. Eh ben, là, c'est OK. Mais si tu les laisses sur tes 2,5 hectares et que tu les laisses faire ce qu'ils veulent, eh ben en fait, ils vont appauvrir petit à petit la biodiversité de ta prairie.
Oui.
Et donc, c'est pas bien.
C'était une petite parenthèse, mouton.
Hein. Technico-ovine.
Et maintenant, on va bouffer du mouton.
Et pas du tout.
Et pas du tout.
Bon, il faut savoir que plus personne mange de mouton, en fait. Hein.
Pourquoi ça? Moi, j'en mange du mouton.
Ouais, t'es sûr que tu manges pas de l'agneau, plutôt?
Ah, attends, mais tout est subtil avec Julie Lou. Un agneau, c'est quand même un petit mouton, quand même, on est d'accord.
Mais c'est un agneau, et la viande, elle est complètement différente d'un mouton.
Mouton, c'est à partir d'un certain âge.
À partir de 1 an, c'est passé en catégorie mouton.
D'accord, d'accord. Attends, je te regarde, je rigole pas, Julie, je te jure.
Si, tu rigoles.
Oui, je rigole, mais je rigole pas à l'intérieur. À l'intérieur, je suis super sérieux. Donc, en fait, c'est un peu comme le veau et la vache.
Exactement, wow. Mais oui.
Parce que la viande de veau, par exemple, elle est presque blanche, alors que la viande de vache, elle est rouge, quoi.
Et pourquoi?
Et parce qu'il boit du lait.
Tout à fait. Et qu'est-ce qui donne la couleur rouge à la viande?
C'est qu'il boit du sang.
Ah, c'est qu'il mange de l'herbe.
Ah oui, c'est l'herbe qui fait du rouge.
Ouais.
Et au départ, les veaux, ils mangent vraiment pas d'herbe?
Alors les veaux, je connais pas très bien, mais les agneaux, en tout cas. Dès leur deuxième semaine, ils commencent à grignoter de l'herbe comme leur maman. Mmh. Donc tout de suite, tu vois, c'est rigolo, tu vois les crottes d'agneau à 2 semaines, c'est jaune moutarde à cause parce qu'ils boivent que du lait.
Oui.
Et dès qu'ils commencent à manger de l'herbe, ils font des cacas noirs.
Toi, t'as des vraies distractions, quoi.
Parce
qu'il y en a qui hésitent entre Netflix et Disney+. Non,
je pense qu'elle regarde aussi Netflix. T'as le temps de regarder Netflix.
Toi, c'est crotte
jaune. Regarde dans les moutons, gars. Ouais. Parce que j'ai la 4G partout ici, hein. Ouais, j'ai attention.
Attends, donc, Julie Lou, quelle est notre recette de plat du dimanche?
Le nom de la recette.
Eh ben, c'est ma junk food à moi. C'est un riz de veau à la landaise.
Donc, des riz de veau. On a le droit d'en manger maintenant? Il n'y a plus l'histoire de la vache folle dans le riz de veau?
C'est hyper dur à se procurer.
Ouais.
C'est encore plus difficile que certains produits illégaux. Mmh. Il faut les commander et il faut avoir une bonne relation avec son boucher parce que lui-même doit avoir une bonne relation avec son revendeur pour être sûr que tu as des riz de veau à peu près corrects.
Dans riz de veau à la landaise, il y a riz de veau, il y a Allah, mais ça, hein, on n'évoque pas. C'est clivant, comme on dit. Et ta landaise. Pourquoi landaise?
Parce que c'est mes origines, c'est mon bled à moi.
Vas-y, t'es d'où?
Moi, je suis de Lévignac, Castets-Lévignac, dans les Landes.
Dans les Landes.
Castex comme...
Castets.
Castets.
Pas Castex, Castets.
C'est un T, un S à la
fin.
Castets.
Castets.
Castets-Lévignac.
Et Lévignac, ouais, à côté. C'est 12 kilomètres.
D'accord, toi tu viens de Castets.
Castets, ouais.
Donc, nous sommes avec Julie Lou de Castets, et qui est bergère et qui va nous proposer des riz de veau à la landaise. Donc, à la landaise, ça veut dire cuit encore dans de la graisse de canard, des choses comme ça?
Il y en a forcément, mais c'est des variantes. Tu peux faire ce que tu veux, en fait.
Alors,
c'est
vas-y.
Une sauce, hein, c'est un mitonné, c'est un petit
c'est un
truc
mitonné. Alors, vas-y, envoie, s'il te plaît, les ingrédients.
Alors.
Et essaye d'être précise, parce que j'ai noté une certaine imprécision dans ta façon de faire. Et tu parles dans le micro.
Mais quel affront!
Dans le micro et
mais
précise, s'il te plaît.
Mais...
Allez, l'écoute pas.
Alors, pour 8 personnes, c'est 8 riz de veau entiers de 200 grammes environ.
8 riz de veau entiers.
Ouais. On dit que c'est des pommes de riz de veau. Il faut 1 kg de champignons dits de Paris.
Et tu sais pourquoi on appelle ça des champignons de Paris ?
Non.
Parce qu'ils sont de Paris.
Et pourquoi ils viennent de Pologne alors ? Alors, 120 g de beurre,
oh.
1 citron, 40 g de farine, 20 cl de vin blanc sec, 4 échalotes et 3 petites carottes. Un ou deux morceaux de sucre. Alors ça, par contre, tu vois, c'est pour rectifier l'acidité. Mais t'es pas obligé. Si tu trouves que ça te va, il faut pas leur mettre de sucre. Ensuite, 3-4 cuillères à soupe de madère.
Ah, le madère, mais qui a du madère ?
Alors, voilà, j'y ai pensé un peu hier. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui raconter, tout ça. Et je me suis dit, il faut quand même que je lui parle de cette histoire d'obsolescence de cette recette. Qui est quand même très 60s en fait, même 50s. C'est une vieille recette, tu vois, c'est comme le machin, le truc madère.
Ok, vas-y, envoie-moi l'obsolescence de cette recette. C'est donc en fait, c'est une recette avec des vieux trucs que t'as plus dans ta cuisine. Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est un truc dans notre temps en fait.
Ok, voilà. Je crois qu'il aime bien ça.
Non, mais non, parce que le madère.
Qu'est-ce que c'est le madère ?
C'est un vin cuit.
C'est comme ça se trouve.
C'est un porto un poil plus...
plus sucré.
Oui, c'est ça.
Ça se trouve facilement, je peux te dire.
Mais tu vois, ça t'oblige à acheter ces espèces de petites bouteilles de merde et des flasques de madère qui traînent dans ta cuisine et qui prennent la poussière pendant 120 ans après.
Ça, c'est quoi, c'est 20 degrés, ça, le madère, non?
Je sais pas. C'est comme du porto, pour moi. Ça doit être assez doux, quoi. Oui.
J'avoue que j'aimerais bien trouver un producteur de madère correct qui raconte quelque chose sur ce... pauvre produit oublié.
Ça vient de Madère. C'est un endroit, Madère, non ?
Gros blanc.
Non, mais disons toi-même, mais le truc, ça s'appelle... Non, mais Madère, c'est un pays, non ?
Oui.
C'est une île,
oui.
Mais voilà, ça vient de l'île de Madère, c'est tout, quoi. Ok, super. Donc, on met du Madère ou on n'en met pas. Vas-y, continue.
Voilà, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, sel, poivre, et voilà.
Et c'est tout ? Et t'achètes ça où, toi, quand tu fais tes courses ?
J'avais posé cette question aussi.
Bah, pose-la, je t'en prie.
Mais t'achètes ça où ?
Eh ben, figure-toi que je te dis, c'est très, très compliqué, parce que les riz de veau, ça se trouve pas dans les étals de boucher.
Mais toi, t'as un endroit, précisément, où tu peux l'acheter ?
En fait, je suis obligée de faire une espèce de tournée de tous les bouchers du coin.
Et t'as un boucher que tu peux nous conseiller ?
Souvent, c'est des gens qui connaissent bien leur métier, qui ont... Ça peut être un test, tu vois, pour savoir si ton boucher, il est vraiment top ou pas. Tu lui dis, est-ce que je peux commander chez vous des riz de veau ? Tu fais le test. C'est comme les boulangers, moi je leur demande toujours, vous auriez du pain avec du levain naturel ?
Ah ouais,
et là, tu captes tout de suite, si le mec il te ment, s'il fait un blanc et qu'il te fait oui, tu vois, mais en fait, tu sens bien qu'il est en panique. Et s'il te fait oui, alors par exemple, il y a une boulangerie Lendemain.
C'est une chaîne.
Ouais, c'est une chaîne. Sauf que t'as des jeunes qui servent aussi, puis tu tombes souvent sur un jeune, et là tu lui fais je voudrais un pain au levain, s'il vous plaît. Tu vois le jeune qui panique, parce qu'en fait il n'est pas boulanger, tu vois. Et là tu vois, en général, le patron qui le pousse et qui fait non, mais ça je prends moi-même, tu vois. Et là il te sort un pain au levain, parce que tu peux en trouver chez Lendemain, donc ça j'aime bien. Et c'est pareil pour le riz de veau, c'est une espèce de. Ça peut être un test pour vérifier si ton boucher c'est vraiment.
Mais
un...
où est-ce qu'on peut aller tester cette question
quand, surtout, je pose la question, t'en as apporté ou comment on se débrouille nous du coup ?
Regarde, je vous l'ai amené là, regarde. Je sors du papier là et hop.
Donc on a aucune course à faire alors nous ?
Mais non, putain.
C'est moderne. Mais
c'est ce qu'elle a dit en arrivant.
D'accord.
Okay. Et j'ai commencé à les préparer la veille.
Mais tu les as trouvés où ?
Ouais, là je suis allée chez les jumeaux au Lila.
Ok. Tu connais les jumeaux Lila ?
Non, je connais pas les jumeaux Lila.
Ok.
Je connais pas les jumeaux Lila. Et puis tu commences à m'agacer. Tu vois, là, tu viens de passer une barrière.
Une barrière d'agacement.
Au-delà de laquelle, c'est de l'agacement.
Ok.
On n'est plus du tout dans la joie là.
Non, on n'est plus dans la joie.
On est dans le bonheur.
On va faire les coucou. Les coucou. On va faire les coucou. On va faire les coucou. Course.
Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de course à faire, ce sont les deux Louise du poste général, Louise Laborde et Louise Boudard, qui sont vaillamment parties sur les traces du troupeau de Julie Lou.
Alors, bonjour à tous, ici Louise et je suis avec Louise. Voilà, nous cherchons Julie Lou et ses moutons qui doivent être au nord. On fait beaucoup d'escalade pour vous. Mais voilà, on espère la trouver.
On essaye de s'aider d'indices. On a vu des crottes, mais qui ne sont pas des crottes de moutons, mais plutôt de chevaux. Donc...
C'est biaisé.
Voilà, c'est... Voilà, on est complètement perdu finalement.
Là, là. On est vraiment en dessous d'une barre d'immeuble. Je suis fan de ce qui se passe. Bon, je fais une petite pause, c'est parti. Enfin arrivé à destination, nous sommes avec Julie Lou à Garges-lès-Gonesse. Alors, on va poser des questions un peu sur tes moutons. Est-ce que tu leur donnes des prénoms ou pas ?
Oui, en général, oui, mais c'est possible aussi que j'en donne pas. Ouais. Là, j'en ai une qui s'appelle Manodou.
Pourquoi ?
Ah bah parce qu'elle nage.
Ah d'accord.
Elle est tombée dans le lac et elle n'arrivait plus à ressortir, donc elle a fait des longueurs de lac. Tu vois les oreilles en vrac là, c'est elle.
Ah ouais, très
enchantée,
bien.
Manodou.
Enchantée Manodou.
Te rencontre enfin.
Alors ça c'est Médicis qui nous a fait une césarienne. Il a fallu la raser sur un côté.
Ah, tu vas chez un vétérinaire de ville pour ça ?
Nous allons à l'hôpital. Ah, nous sommes à Paris, ma chère.
Ah,
à Paris, nous avons un hôpital à moutons, à Maison-Alfort. L'Académie vétérinaire. Himself.
Bel prestige pour nos moutons, c'est bien.
Oui,
c'est
ça
bien.
Coûte très cher. mais bon, on est content. On aide la recherche. Comme ça, il y a des étudiants qui peuvent s'entraîner. C'est bien.
Okay. On se demandait aussi, est-ce qu'il y a un meneur, tu vois, quand il marche en troupeau, qui décide de quoi
En fait, une brebis qui prend un air sûr d'elle, genre, oh là là, je me souviens que là, on avait un petit coin très sympa où il y avait des trucs sympas, tu vois, elle prend son air, genre décidée, la tête en l'air et avec un petit pas de course, tu vois. Et là, t'as tout le troupeau qui la regarde et qui fait, ouais, elle a l'air de savoir où elle va, elle. Et hop, t'as tout le monde qui part, tu vois.
T'en perds pas en chemin, parce que quand t'en balades 50 comme ça, il y en a pas un.
Non, s'ils disparaissent, c'est qu'ils le voulaient bien, quoi.
Ok.
C'est eux qui le veulent.
D'accord.
Là, par exemple, le dernier disparu, c'est Gilbert. Gilbert, c'était un agneau au biberon qui suivait n'importe qui. En fait, il n'avait pas un comportement de mouton, il était fucké, quoi. Il se comportait comme un individualiste. Résultat, il ne suivait pas le troupeau. Résultat, il s'est retrouvé dans une casserole, à mon avis. Voilà.
Il y a des vols, tu crois qu'on peut te voler des moutons ou ça arrive rarement ?
C'est de la bouffe, un mouton.
Ça reste de l'argent. Hein.
C'est bien sûr. Et si ce n'est pas pour le manger directement, c'est pour le revendre. C'est de l'argent, ouais. Donc
bon bah j'espère qu'on retrouvera Gilbert peut-être un jour.
Non, je pense pas. Et franchement, un animal comme ça, c'est comme un gamin qui est tout le temps en train de se perdre. Ça veut dire qu'il doit mobiliser deux adultes pour les sorties parce que dès que tu tournes la tête, hop, il a disparu. Bon ben celui-là, je le trouve très chiant ce gamin, tu vois, c'est ça va pas, il a pas pigé le concept de garder la main dans la main et de suivre, tu vois. Bon ben à un moment donné, non, tu peux pas.
Hop. Ok, c'est bon, ça enregistre. Alors, bah, nous étions avec Julie Lou, merci à toi.
Bah, merci à vous d'être venue et d'avoir couru.
Ouais, d'avoir couru,
ouais, bah, ça nous fait plaisir. Il fait hyper beau, on est bien.
Ouais, et c'était. Peut-être rester encore un peu avec les moutons.
Bah, tout à fait. Et donc, c'était.
Un reportage de Laborde et Boudard.
Merci à vous. Et on se retrouve avec Wael et Vincent pour cuisiner. Vous cuisinez quoi ?
Des riz de veau à la landaise.
Ah oui, ce sont les fameux riz de veau. Eh bien, bon appétit.
On revient des coucous courses. On revient des coucous courses. Les bras chargés de victoire.
On a tout sur la table, tout est déballé. Qu'est-ce que tu as déjà fait, Julie Lou?
Alors, j'ai fait dégorger les riz de veau pendant 2 à 3 heures dans de l'eau froide, légèrement vinaigrée. Ensuite, je les ai égouttés, je les ai plongés dans une casserole d'eau bouillante pour les faire blanchir 2 à 3 minutes.
Mm-hmm.
Là, ils prennent une couleur... Alors, toi, ils sont un peu rosés, un peu... C'est transparent, un petit peu... Enfin, pas transparent, mais...
On voit pas à travers.
Comment dire, ça ressemble à une méduse opaque.
Ah, oui.
Voilà, et donc, du coup...
C'est mieux que des œufs, hein. Opaque.
Oui, c'est gélatineux un peu, voilà, et brillant, tu vois.
Comme Dany.
quand tu les plonges dans l'eau 2 à 3 minutes, paf, ils blanchissent. Ils viennent blancs comme un blanc d'œuf, tu vois.
Oui.
Super. Et là, du coup, tu vas pouvoir... le truc, c'est que tu les égouttes à la sortie de l'eau bouillante.
Oui.
Paf, tu les plonges dans de l'eau froide.
Paf. Je dirais plouf, moi, perso, mais bon, on peut faire paf.
Paf sur la cuisse, l'eau froide.
Oui. Ah oui. Plouf, tu les touches dans l'eau froide.
Plouf,
et après, vas-y, continue, on n'avance pas, là, notre recette, là, on en est où?
Du coup, on peut enlever toutes les parties un peu grasses, un peu les filaments sanguins.
Un peu comme dans le foie gras, en fait.
Tu les nettoies, quoi.
Oui,
ouais,
ouais, d'accord,
c'est ça.
Ok.
Tu sais que le foie gras, ça vient de chez moi.
Moi, on m'a dit que ça venait d'Alsace. Hein.
Mais pas du tout. Attends. Ah, mais si. Il y a une explication, parce que j'ai une explication sur le foie gras.
Vas-y, on voit. C'est quoi
l'explication? Eh bien, en fait, tu sais que les canards, ils n'ont pas de satiété. Ou les oies, enfin, tous les oiseaux migrateurs, en fait. Et donc, dans les grandes régions où il y a des oiseaux migrateurs qui passent, eh bien, en fait, c'est là que se logent les pays d'origine du foie gras. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se gavent. Ils sont gros, ils sont gras, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres, qui vraiment n'arrivent pas à gérer leur gourmandise. Du coup, deviennent malades, passent le stade de la gourmandise. Non. Et ils redécollent pas avec leurs copains. Ils n'arrivent pas à aller jusqu'en Égypte, tu vois. Mmh. Parce qu'ils se gavent pour pouvoir faire ce grand voyage de plus de 1000 km. Et voilà, ça... Bon. Mmh. Donc, ils ne décollent plus.
C'est pas une bergère, c'est Stéphane Bern des animaux qu'on a.
Le local arrive à les choper parce que comme ils n'arrivent plus à voler, tout ça, c'est beaucoup plus facile à attraper.
Pas.
Peut-être même à, tu vois, juste braconner, tu vois, tu les attrapes comme ça. Et puis sûrement que là, les gens dans ces pays-là, ils se sont rendus compte que, hey, ils sont quand même meilleurs quand ils sont malades que quand ils sont encore... Et du coup, l'invention du foie gras. Hop là.
Hop là, direct.
Donc, nous sommes avec Julie Lou, qui est bergère, mais pas seulement, c'est une merveilleuse conteuse. Et là, Julie Lou nous fait des riz de veau à la landaise. Elle a déjà dégorgé ses riz de veau, puis mis dans l'eau chaude, patali patalaire, ensuite épluché, nettoyé, enlevé les bouts de gras, etc., dénervé, et ensuite mis dans un torchon avec un poids dessus. Alors qu'est-ce que tu mets comme poids dessus d'ailleurs?
Eh bien, je mets un kilo de beurre.
Un kilo de beurre, d'accord.
On a toujours ça dans son frigo.
Si quelqu'un n'a pas un kilo de beurre, vous pouvez mettre un bon livre.
Un livre qui supporte le frigo quand même. Hein.
Bah, tu prends le truc de Solzhenitsyn sur le goulag, là, c'est bon, ça doit passer au frigo, ça, normalement.
La classe. Attends. La classe. Après, il faut faire attention aux mauvaises vibrations dans la nourriture. Hein. C'est un truc.
Ah bon, c'est encore un de tes trucs, ça?
Ouais.
Mais t'es complètement fêlé. C'est quoi la mauvaise vibration dans la nourriture?
Eh bien, en fait, ce qui est vraiment nourrissant. Ce sont des aliments qui, à tous les endroits de leur chaîne de fabrication, pour jusqu'à que ça arrive dans ta bouche, et même toi, quand tu le mets dans ta bouche, il faut que tout le monde soit sur un good feeling, tu vois. Et là, c'est vraiment nourrissant. Et dès qu'il y a une moindre... dès qu'il y a quelqu'un qui râle en préparant quelque chose, tu vois, et qui fait passer quelque chose de négatif, eh ben, tu le sens tout de suite dans le produit, en fait.
Mais pourquoi McDo marche, alors ?
McDo marche parce que la culture...
Je suis pas sûr qu'il y ait que du
j'accuse la culture, j'accuse la...
L'américanisation de la société, c'est un peu la thématique du moment.
Alors, nous sommes avec Julie Lou, qui est bergère et qui s'échappe un tout petit peu de notre système de recettes, on ne sait pas très bien pourquoi, et avec également Wael, qui est en train d'éplucher des champignons de Paris, qui s'appellent champignons de Paris parce qu'ils viennent de...
Paris.
Il y a une super champignonnière qui s'appelle la Marianne, qui est au nord de Paris. Là. Ils font encore des champignons de Paris sur le crottin de cheval.
Oh, génial.
Ouais.
La Marianne, ok.
Ils font encore des champignons de Paris sur du crottin de cheval. Suivez Julie Lou Bergère dans ses pérégrinations. Elle vous emmènera un peu partout autour de Paris, dans des endroits que vous ne soupçonnez pas. Et vous apprendrez à distinguer également les crottes de jeunes agneaux, jaunes,
jaune moutarde.
Avec les crottes d'agneaux qui ont commencé à brouter.
Voilà.
Et qu'est-ce que tu fais quand tu as une brebis de réforme, par exemple, une qui n'a plus de dents?
Eh ben, je la mange.
Tu la manges?
Mm-hmm.
Aussi simple.
Moi, tu sais, je pense que le respect, ça va jusqu'à manger les animaux dont tu t'es occupé.
Est-ce que tu fais ça aussi avec les humains, de façon mente religieuse, par exemple?
Ah, ça y est. Mais putain, t'es fin, toi.
Hein?
Ouais. Eh ben, écoute, j'ai toute une théorie sur le cannibalisme aussi.
Ouais.
J'adore mes amis. Ouais, ça va.
Oui, mais ça va. Il y a toute une théorie sur le cannibalisme, disons, affectueux, enfin, disons, de l'amour.
Oui,
l'amour
c'est
cannibale
le meilleur,
existe.
C'est le meilleur.
Alors là, good feeling jusqu'au bout. C'est-à-dire que le bonheur. Mange,
tu sais, quand les mères, elles jouent avec les bébés, là, en train de les langer, tout ça, et elles leur font « Oh, t'es mignon, oh, t'es mignon, oh, je vais te manger !»
Ça commence par là.
C'est l'amour maternel, l'amour cannibale.
On est bien, on est avec Julie Lou, on est dans la cuisine, enfin on essaye de s'accrocher à la cuisine parce que là, franchement, je suis un peu dans l'espace. On a des riz de veau, on a une landaise, mais on n'a pas de riz de veau à la landaise pour l'instant.
Non, pas encore.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Donc les champignons sont prêts, Ça y est, il a été hyper efficace, hyper rapide. Alors, merci, ouais.
Comment ?
Arrête de dire ça, ça me pourrit mes podcasts. Non, mais...
Alors, j'ai coupé les champignons en quatre.
Ouais.
D'habitude, tu les épluches pas, mais là, je sais pas. Tu m'as demandé de le faire. Donc
je n'épluche jamais les champignons.
Pareil.
Faut les essuyer, mais c'est chiant.
Je coupe le pied, mais même pas. Je les passe sous l'eau.
Ouais, je les passe sous l'eau. Je les brosse, moi.
Oh, ah, moi, jamais je les passe sous l'eau.
Ouais.
Non.
Ok, donc tu les passes pas sous l'eau.
Non.
Tu les essuies. Enfin, ouais. Tu les brosses ou tu les épluches?
Ouais.
D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut continuer maintenant, Julie?
Alors, donc moi, j'ai fait revenir dans la casserole 50 g de beurre et de jus de citron. C'est joli, ça sent bon.
Ça sent bon.
Et dans une autre casserole, je prépare un roublon. Tu vois ce que c'est, un roublon?
Le roublon.
C'est une base beurre-farine.
Beurre-farine.
Que tu mélanges.
C'est pour ça qu'on avait de la farine, en fait.
Que tu fais fondre un petit peu dans la casserole.
Ouais.
Ça fait des boulettes beurrées-farine, tu vois.
Mm-hmm.
Et alors, quand c'est un roublon, c'est-à-dire que tu vas mettre du bouillon. Si tu mets du lait, ça fait un roux blanc qui s'appelle aussi la béchamel. Et si tu mets du bouillon, ça fait un roux blond. D'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas une sauce vénitienne?
T'as entendu la blague?
Non. Pourquoi?
Non, c'était nul. Arrête.
Vas-y, pourquoi? Vas-y.
Non, il y a dans les blagues.
Ouais, je vais. Vas-y, envoie.
Quand on fait un roux blond, pourquoi on n'appelle pas ça une sauce vénitienne?
Blond vénitien.
Ah oui, d'accord. D'accord. Ok. Oui, c'était une très très bonne blague.
Ma mère a été une ancienne coiffeuse, c'est pour ça que je suis sensible au truc des cheveux là. Enfin, bref.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait le roublon. D'où il sort notre bouillon?
Eh ben, c'est un bouillon que t'as forcément au coin de ta cuisinière.
Ah, d'accord, donc on fait un bouillon avec un bouillon cube?
Non.
De quoi on parle? Non. T'as mangé un poulet la veille?
J'ai mangé un poulet la veille. Tu le savais, Samuel?
Oui, on le savait.
Et qu'est-ce que tu fais avec ta carcasse?
Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma carcasse?
Tu l'as jetée. Tu l'as filée à ton chien.
Non.
Il a pas de chien.
Non.
Alors qu'est-ce que t'en as fait?
Oh, je l'ai fait... Je l'ai concassé et je l'ai mis dans une casserole pour faire mon bouillon.
Eh oui, avec de l'eau.
Avec de l'eau.
D'un petit oignon et des clous de girofle, quelques herbes.
Voilà.
Et t'as ton bouillon de poule.
J'ai mon bouillon qui est de poule.
Si t'as envie, tu peux faire une soupe chinoise. Bref, donc là, on a mis le bouillon de la carcasse de poulet de la veille dans...
C'est pas boulet, hein, c'est poulet.
Poulet. Ouais, mais moi, je prononce mal.
C'est à Verdun, il faisait de la carcasse de boulet.
Ça, c'est comme les fautes T9. Tu te démerdes pour lire, quoi.
T9. Nous sommes donc dans le Minitel en 72.
Non, T9, c'est les premiers téléphones.
Ouais.
Donc, tu mets ton bouillon.
Parce que tu me tutoies maintenant.
Non, elle dit tu à l'auditeur.
Ah, c'est un tu national. D'accord, ok, pardon. Ouais. Excuse-moi.
Papa.
Vas-y. Mais vas-y, on n'avance pas. Qu'est-ce que je mets dans le beurre avec le citron, là?
Mais rien, tu l'es. Ah, c'était sur le côté,
d'accord,
tu vois.
D'accord. Très bien.
Ensuite, tu mets le vin blanc.
Dans le roux. D'accord, dans le roux.
Voilà.
Ok.
Ensuite... Tu mets la même quantité d'eau.
Rappelle-moi,
c'était combien?
20 centilitres.
Voilà. Tu coupes avec de l'eau. Tu délayes avec une spatule. Donc, ça doit être fluide, pas trop épaissir. Et tu sales et tu poivres.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces petites carottes? On a nos échalotes, on les met dans la poêle?
Non, d'abord, on les coupe en brunoise.
En brunoise, c'est-à-dire...
Petit dé.
En tout petit dé.
Ouais, j'adore ça.
Tu les fais revenir dans la cocotte avec un reste de beurre. Et alors là, une fois que les carottes et les échalotes ont pris une belle couleur, tu vois, paf, t'envoies tes escalopes de riz de veau.
Qu'on met dedans?
Sur les carottes.
Ouais. Dessus, carrément. D'accord, voilà. Je pensais qu'on les ferait cuire à part. D'accord, on les fait dessus. Ok,
voilà.
Et là, combien
de
temps?
Et tu les as préalablement coupées en tranches épaisses, tu vois, comme ça. Voilà. Et là... Tac, tu les mets. Alors, tu vois, c'est à peu près. Il faut que ça. C'est l'épaisseur d'un doigt, tu vois. C'est tranche épaisse.
Ok, comme ça.
Voilà. C'est vrai que toi, t'as un doigt plus grand que le mien. Ouais. Et donc là, tu les laisses se rissoler un petit peu. Ils prennent une couleur. Tu vois,
ils prennent une couleur,
blondir,
d'accord. On est vraiment dans les couleurs. Entre le roux brun, le
blond vénitien.
Le vin blanc, etc. etc.
Tu rajoutes les champignons à ce moment-là.
Les champignons.
Ils sont
coupés en quatre, je rappelle.
Voilà. Le beurre et le jus de citron. La sauce roublon machin.
On n'a jamais fait autant de cuisine de notre vie. Oui.
Voilà.
Et ça va faire quelque chose, ça?
Et là, tu goûtes.
On goûte.
Bah, goûte.
Mais là, c'est chaud, là.
Bah oui.
On goûte quoi? On goûte le...
Ça te
le...
dérange pas de goûter sur mon doigt?
Prends une petite cuillère. Là, on goûte le riz de veau pour voir s'il est cuit ou...
La sauce.
Ou on goûte juste la sauce?
La sauce.
D'accord.
Tu suis pas.
On va goûter pour voir...
Si on rajoute du sucre ou pas.
Mais putain, heureusement qu'il y en a un qui suit.
Bah oui.
Moi, je préfère qu'on met pas de sucre nulle part, moi.
C'est un mauvais
produit, le sucre.
Donc voilà, 10-15 minutes, tu fais mijoter.
J'ai oublié de te demander si t'avais un son à nous faire écouter. Est-ce que tu auras un son à nous faire écouter?
Et non.
Non, j'ai oublié de te demander. Mais moi, en ce moment, j'écoute
On s'en fout.
Sinon, il y a un truc avec genre Georges Brassens et les bergères. Hein, je sais pas quoi, il y a un truc.
On écoute sur le conseil de Julie Lou, qui en plus d'être bergère et musicologue, un morceau de Brassens avec Bobo, des moutons, bonbons, des machins, bababababa. Et vous verrez bien.
Il existe encore des bergères qui promènent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Malgré le règne des machines, dans certains villages cachés, un vieil anon courbe les chines en grimpant des sentiers perchés. Et dans les prés sur l'herbe verte, le voyageur fait tout à coup la plus heureuse découverte, une bergère aux yeux très doux. Il existe encore des bergères qui surveillent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Celle que je vis au sommeil avait robe courte et corset, coiffée d'un grand chapeau de paille. Elle était faite, Dieu le sait, surveillant le troupeau qui bêle. Un barbet gris fort inquiétant m'empêchait d'approcher la belle en découvrant toutes ses dents. Il existe encore des bergères qui surveillent leurs blancs moutons. Elles ont la taille légère et un vieux bâton. Mais je devins ami quand même de la bergère et de son chien. La bergère en disant je t'aime, le chien en ne lui disant rien. Il signait l'oreille en bataille, le faux plan des moutons frisés, dévorant le chapeau de paille, de nos fous baisers. Il existe encore des bergères, il existe encore des moutons et des aventures légères dans tous les cantons.
Et voilà, nous sommes de retour dans la cuisine après avoir écouté le morceau de Brassens, c'est des moutons, des machins, sur le conseil avisé et complètement musicologique de Julie Lou, bergère, romancière, enfin bon. Julie Lou qui est là avec nous, qui sourit, et tout est cuit, tout est fait, tout est machiné, il reste presque plus rien à faire.
À part le madère et la crème fraîche, il ne faut pas faire cuire, hein, faut juste la délayer dans la sauce.
Oui.
Et puis après, tu regoutes encore pour voir si ça manque un peu de sel, un peu de poivre.
Moi, j'aimais bien sans madère. On est obligé de le mettre, le madère ?
Non, tu peux. Franchement, tu peux le faire sans.
Ouais, mais j'aime autant. Merci
ça,
beaucoup.
Ça donne la petite note 6-6, tu vois.
Oui, non, mais j'ai pas envie. Moi, ça ressemble à un vieux papier peint, moi, je trouve.
Oui, oui, un peu de ça.
On est d'accord.
Ça ressemble à ça. Mais ouais. J'aime bien.
Oui.
Il n'y a pas une chanson un peu connue sur, autour du madère ? Ça me dit quelque chose ?
Jean-Pierre Madère ?
Non.
Dans les années 80 ?
Non, je sais pas.
Eh oui, on écoute un tout petit bout de Jean-Pierre Madère sur les conseils de Well. Et voilà, de retour dans la cuisine avec Julie Lou, qui est bergère, musicologue, également cannibale, et qui, on va finir cette recette maintenant, Julie Lou, on n'en peut plus.
Et ben voilà.
Et en plus,
c'est...
ouais, elle a un train.
Mais j'ai un train à midi, à Gare de Lyon.
Donc on se dépêche.
Mais ouais,
mais c'est pas grave, mais je peux vous laisser finir et...
Tu veux y aller maintenant?
Ouais, ouais, je dois y aller.
Regarde la panique dans ses yeux. Allez, file, file. Salut.
Et donc nous sommes, je suis du coup tout seul, puisque Wael vient de partir avec
un
Julie
petit peu
Lou,
inquiet, un petit peu
qui
inquiet.
Est bergère, mais qui n'est pas Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que tu entends des voix quand tu fais des moutons des fois?
Attends, je me concentre, je crois que non.
T'as jamais, genre, là t'es assoupi, t'es à côté de tes moutons.
Largement pas assoupi à côté des moutons, un truc à pas faire. Hein.
Pourquoi?
Parce qu'ils le savent.
Et
ils se cassent.
Ah, donc tu restes toujours éveillé à côté de tes moutons?
Ah, il faut être super concentré, il faut montrer que tu es là. Parce qu'en fait, le mouton, qu'est-ce qu'il cherche Lui, il veut de la sécurité. Il veut te voir attentif, il veut te voir à l'ouvrage, tu vois. Il veut voir que si jamais il y a le moindre truc qui bouge, hop, tu gères, tu vois. Mmh. Donc si tu es sur ton portable ou si tu es pas attentif ou alors que tu montres pas par un savant langage corporel que tu es bien là et bien présent et bien à ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire surveiller... Eh ben, eux, hop là, ils vont partir.
Hop là, les moutons s'en vont.
Alors, Julie Lou, on en est où de notre recette? Parce qu'il faut quand même qu'on termine notre
là,
truc. Hein.
C'était bien chaud, un peu trop peut-être. C'est pour ça qu'en discutant, on attend un petit peu. Et puis, on va pouvoir déguster.
On va déguster. Mais alors, avant de déguster, moi, je voudrais juste que tu me donnes un petit conseil culturel.
Est-ce qu'on peut faire un conseil anticulturel?
Je t'écoute.
Ah bah, en fait, je conseille à tous les gens d'aller pratiquer les arts paysans quelque part avec un ami, quelqu'un que vous connaissez de loin.
C'est quoi les arts paysans?
Eh ben, c'est être paysan. Voilà, c'est des artistes du territoire, c'est des artistes, ils regardent la nature, ils pensent à beaucoup de choses et il faut aller partager leur travail pour pouvoir connaître à quoi ils pensent.
D'accord, enfin ton conseil c'est que chacun puisse aller voir ce qui se passe dans le monde paysan.
Participer.
Oui. Et comment on peut faire?
Bah t'as le woofing.
Le quoi?
Le woofing.
C'est quoi le woofing?
Qui te permet d'aller rencontrer des paysans en agriculture biologique. Bah c'est une association, Woof France ça s'appelle.
Woof France.
Et t'es logé, nourri et tu dois aider la personne.
Et comment ça s'écrit, pardon?
Eh bien, je confonds à chaque fois. Je crois que c'est W-O-O-F.
Ah, Woof.
Woof.
Woof France, et c'est une société...
Non, c'est une association.
Enfin, c'est une association, je m'en fiche.
Qui met en relation des fermes d'agriculture biologique avec des gens qui veulent découvrir ce monde. Et contre une participation, ils ont le gîte, le couvert, et surtout le moment, dans le travail, de rencontrer...
D'accord, c'est une sorte de stage paysan, en fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais.
Hein?
Ouais.
Toi, tu l'as fait, ça?
Non, je ne l'ai pas fait, mais j'en reçois.
Ah, tu en reçois?
Je reçois des woofers à la Courneuve.
Des woofers. D'accord, et bien là, c'était Julie Lou, bergère, qui est venue avec un livre quand même, donc on va peut-être en parler une seconde. Tu as un livre avec des types et des échasses, ça c'est quoi?
Voyage au cœur des Landes, de Jean Sargos.
Pourquoi tu as apporté ça?
Parce que je me suis dit, si jamais ils veulent que je leur
lise
quelques extraits sur qu'est-ce que c'est que l'esprit landais... L'esprit gascon, voilà, moi je trouve que là il y a beaucoup de choses qui expliquent.
Alors donne-nous le titre du livre.
Alors c'est Voyage au cœur des Landes de Jacques Sargos.
Et c'est aux éditions?
Aux éditions, il n'y en a pas.
Mais si, il y a forcément toujours des livres.
Attends, je cherche, il y a marqué Jean Sargos. Mais je suis ni lettrée, attends.
Elle ne sait pas lire, je le confirme.
Pas, Jean Sargos.
Ah non, oui, alors c'est aux éditions Jacques Sargos, 1984. Voyage. Au cœur des Landes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Julie Lou, pour tout ce que tu as raconté sur les moutons, tout ça.
À table, vite.
Bouquin. On va passer à table sans Wael, donc tous les deux.
Mais on lui en garde un bout, hein. Ça va être dur, mais...
On verra, si on a envie, si on n'a pas faim. Et je te souhaite un joyeux retour après dans tes prairies. Mm-hmm. Les gens peuvent aller te voir s'ils veulent.
Mais ils peuvent même s'inscrire à l'association, devenir bénévole et s'engager dans
Attends, c'est quoi l'association?
Clean Amen.
Le nom pourri. Attends, c'est quoi Clean Amen?
Le nom pourri, mais c'est le doigt de Dieu. Tu m'appelles ça le doigt de Dieu, c'est pourri, mais c'est un blasphème. Amen. C'est un blasphème.
Clean Amen, comment t'écris ça?
C-L-I-N-A-M-E-N.
Clean Amen.
Oui, même ça s'appelle le Clean Amen.
Le... D'accord, voir, elle me fusille du regard.
Voir si Lucrèce et Épicure.
Ok, ben merci. Voilà, on va à table. Allez.
Allez, on mange.
Le saviez-vous? Tout ce qui est là n'est pas forcément là.
C'était une émission du Poste Général.